Le regard des gens, toute ma life. Brise mon cœur, ouais, ouais, toute ma life. Ouais, ouais, manque d'amour, ouais, ouais, toute ma life. M'éloigne de mes proches, ça c'est toute ma life. Vivre sans repère, ça c'est toute ma life. Yo, yo, yo. Tout est noir.
À Bamako, 18h à Paris.
Arthur Ponchelet.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RFI. À la une de ce journal, Donald Trump et son équipe, vraisemblablement la cible du tireur au gala des correspondants de la Maison Blanche. On n'en sait plus sur le profil du suspect de 31 ans. D'après le président américain, il a écrit un manifeste anti-chrétien. Le ministre de la Défense tué, le chef de la junte exfiltré, situation toujours confuse au Mali, au lendemain d'attaques djihadistes dans plusieurs villes. L'armée renforce ce soir son niveau d'alerte dans tout le pays. L'actualité, ce sont aussi les 40 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le soutien appuyé de la diplomatie chinoise à la Birmanie, et puis le décès de Raghuraï, immense photographe indien, il avait 83 ans. C'était un homme très dérangé. Voilà comment Donald Trump qualifie le suspect interpellé après la fusillade hier soir au gala des correspondants de la Maison Blanche. Scène surréaliste de policiers lourdement armés au milieu d'hommes en smoking et de femmes en robe de soirée. L'auteur présumé des tirs a, selon Donald Trump, écrit un manifeste anti-chrétien. Bonsoir Fatou Lordiouf.
Bonsoir.
Tout à l'heure, le procureur général, lui aussi, a pris la parole. Todd Blanche l'assure, Donald Trump et son équipe étaient vraisemblablement les cibles de cette fusillade.
Les forces de l'ordre américaines ont examiné des appareils électroniques appartenant au suspect. Il est toujours en garde à vue, mais le procureur général Todd Blanche reste prudent sur les motivations qui l'auraient poussé à passer à l'acte.
Nous cherchons encore le mobile avec l'enquête préliminaire. Il semblerait que le suspect visait des membres de l'administration. Nous savons qu'il a voyagé depuis Los Angeles jusqu'à Chicago, puis jusqu'à Washington en train. Il a pris une chambre à l'hôtel Hilton 48 heures avant l'attaque. Il ne coopère pas spécialement avec les autorités pour l'instant.
L'auteur présumé, Cole Thomas Allen, aurait acheté des armes à feu légalement au cours des deux dernières années. Il ne figure pas sur la liste des personnes surveillées par les autorités. Les enquêteurs tentent d'identifier les éventuelles failles dans le système de sécurité de l'événement. Cet incident provoque déjà des critiques. Un député républicain a réagi, estimant que la sécurité était insuffisante ce soir-là.
Fatou Lordiouf, notez aussi ce soir ses réactions, cette fois à l'international. Inacceptable, dénonce Emmanuel Macron. Le roi Charles III, attendu en visite d'État lundi aux États-Unis, se dit lui soulagé que les invités du dîner soient sains et saufs. Le monarque précise que les discussions sont en cours pour déterminer si oui ou non cet incident aura un impact sur son voyage à Washington. Abbas Araghchi de retour à Islamabad. Le chef de la diplomatie iranienne est arrivé dans la capitale pakistanaise 24 heures après l'avoir quitté. Il doit transmettre la position de son pays sur le cadre de tout accord avec les États-Unis, selon une agence de presse iranienne, avant de s'envoler pour Moscou pour rencontrer cette fois Vladimir Poutine. L'armée malienne renforce les niveaux d'alerte dans tout le pays, communiqué des FAMA, alors que la situation est toujours confuse sur place au lendemain d'attaques coordonnées et simultanées du JNIM et des FLA dans une demi-douzaine de localités. RFI vous révélait ce midi la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara, après l'attaque hier de son domicile. On a aussi appris l'exfiltration du chef de la junte, Assimi Goïta. Il est dans un endroit sûr, selon son entourage. La situation à suivre toujours minute par minute sur notre direct à la une de notre site rfi.fr. Nous sommes le 26 avril et il y a 40 ans, jour pour jour, le monde connaissait sa pire catastrophe nucléaire. Il était 1h23 du matin lorsque le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, exposant ainsi des millions d'Ukrainiens et d'Européens à des particules radioactives. 40 ans après, le bilan humain fait toujours débat. Ce qui est sûr, c'est que 600 000 personnes ont participé au nettoyage du site et que 350 000 autres ont été évacuées. Svetlana est l'une d'entre elles, adolescente à l'époque. Elle se souvient aujourd'hui de ces journées qui ont marqué sa vie à jamais. Reportage Emmanuel Chaz.
Pendant les jours et les semaines qui ont suivi l'explosion du réacteur numéro 4 de Tchernobyl, peu d'informations ont filtré officiellement. À l'époque, Svetlana avait 14 ans et elle vivait dans un hameau de ce qui est aujourd'hui la zone d'exclusion.
En 1986, c'est tombé entre un vendredi et un samedi. Il y a eu cette explosion dans la nuit. Et à l'époque, on avait encore cours le samedi, on avait sport. Mais on nous a fait décharger des briques. On n'avait pas le choix, il fallait bien aider.
Svetlana a bien noté le va-et-vient de véhicules militaires dans le village ce jour-là et l'idée d'une évacuation se profile.
Notre prof de sport, c'était un soldat. Il nous a dit que si c'était vrai, ce qui s'était passé là-bas, ils allaient évacuer la zone sur 30 km. C'est lui qui nous l'a annoncé.
À l'époque, il a fallu plusieurs jours pour le régime soviétique pour organiser cette évacuation.
Le dimanche, un jour de congé, les gens commençaient déjà à parler davantage de l'accident. Le lundi, nous sommes allés à l'école, il y avait cours, mais moins d'enfants. Et il y en avait encore moins mardi. On s'est tellement amusés, il n'y avait pas cours, on courait partout, on jouait avec l'eau, on se faisait éclabousser, comme s'il n'y avait pas eu de catastrophe, parce que personne n'a rien expliqué à personne.
C'est début mai que Svetlana et sa famille ont finalement été évacuées, même si elle sait que c'est impossible. Elle rêve aujourd'hui de retourner un jour dans le hameau où elle a grandi. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
40 ans après, donc, l'Ukraine se souvient. Tout à l'heure, lors des commémorations, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de terrorisme nucléaire. Référence aux frappes qui ont visé l'an dernier le sarcophage, la coque de protection de la centrale. Pendant ce temps, les combats se poursuivent en Ukraine. De nouveaux bombardements russes ont tué 5 personnes à Kramatorsk dans le nord-est du pays. De son côté, la Russie scelle un accord de coopération militaire à long terme avec la Corée du Nord. Le chef de l'armée russe est à Pyongyang, où il a rencontré tout à l'heure Kim Jong-un. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Corée du Nord a déjà envoyé des milliers de soldats, mais aussi des missiles et des munitions pour soutenir son allié. Autre visite sur laquelle on s'arrête dans ce journal, celle du chef de la diplomatie chinoise en Birmanie. Dernière étape de la tournée de Wang Yi en Asie du Sud-Est, après le Cambodge et la Thaïlande. Yelena Tomic, le ministre chinois des Affaires étrangères, a réitéré son soutien à la Birmanie et l'a aussi appelé à renforcer les relations sécuritaires et commerciales.
La visite de Wang Yi à Naypyidaw intervient seulement 15 jours après l'investiture de Min Aung Hlaing comme président à la suite d'élections législatives jugées ni libres ni équitables et destinées selon les critiques à maintenir l'emprise de l'armée 5 ans après avoir renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Isolé sur la scène internationale et critiqué par une grande partie de l'ASEAN, le bloc des nations d'Asie du Sud-Est, le régime birman a donc reçu ce week-end un soutien sans équivoque de son voisin chinois. Un soutien guidé par les propres intérêts de Pékin. Parmi les motivations stratégiques, la stabilité frontalière. Depuis le putsch il y a 5 ans, la Birmanie est en proie à une guerre civile. La Chine a joué un rôle décisif dans les trêves conclues entre les armées ethniques et la junte, le long de la frontière, où prolifèrent également côté birman des centres d'arnaque en ligne que la Chine souhaite voir éradiquer. Pékin souhaite également préserver son accès aux terres rares et au gaz, mais surtout reprendre les chantiers bloqués par les combats autour de l'un de ses projets phares dans la région, le corridor économique stratégique qui relie la province chinoise du Yunnan à l'océan Indien.
Yelena Tomic, en Thaïlande, 22 moines sri-lankais arrêtés à l'aéroport. Les religieux transportaient 110 kilos de couches de drogue dérivées du cannabis. Ce sont pour la plupart des jeunes, c'est la plus grosse saisie de couches jamais réalisée en Thaïlande. Il était sans doute l'un des plus grands photographes du monde. On a appris aujourd'hui le décès de Raghuraï, immense figure de la photo en Inde. Il avait 83 ans, une vie de voyage, de rencontres et surtout de mise en lumière des plus démunis. Retour sur sa vie et sa carrière avec Laurence Théo.
C'est une photo qui a fait le tour du monde. Un enfant mort, les yeux ouverts comme pétrifié, le visage émergeant des cailloux avant d'être enseveli. Cette image en noir et blanc est emblématique de la force du travail de Raghuraï. Elle montre l'ampleur de la catastrophe industrielle de l'Inde, une fuite de gaz survenue à Bhopal en 1984 qui a fait environ 25 000 morts. Adoubé à ses débuts par Henri Cartier-Bresson, qui l'invita à rejoindre la prestigieuse agence Magnum, Raghuram, né en 1942, est le photographe le plus respecté d'Inde. En 50 ans, il a été le témoin majeur des événements et des figures qui ont façonné l'histoire de son pays. Mère Teresa, l'ascension et la chute d'Indira Gandhi, la guerre au Bangladesh en 1971, la catastrophe de Bhopal en 1984, ou encore le Dalai Lama. C'est dans les années 1960-1970 que Raghuram s'est tourné vers le photojournalisme, travaillant avec certains des plus grands médias de son époque, avant de se lancer, tout seul cette fois, dans sa quête de représenter la complexité de son vaste pays.
Laurence Théo, pour refermer ce journal à 16h10, temps universel, tout de suite, c'est Hugo Moissonnier qui vous accompagne pour Mondial Sport, avant le retour de l'information, d'ici 50 minutes. Bonne fin de journée, à l'écoute des RFI.
Qui va là, tristesse, dans trouver la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettise je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse.
Elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9, à Évreux, 102.4.
Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
<t'en> fell in love, it was a Tuesday. Another sunny afternoon. Just one look and it was doomsday. I felt your image fill the room. I imagined you beside me, and all the words I'd like to say. Throwing stones across the ocean, making promises to you, trying hard to find a reason for these games I'm going through. Selling loneliness for daydreams, buying sanity from you, seeing everything and nothing in between, falling faster, but it's never like it seems, feeling love like it's just something from a this feeling as I watch you. Some disposable designs. Then I think about the reason and how they're awfully hard to find. Selling loneliness for daydreams, buying sanity from you, seeing everything and nothing in between, falling faster, but it's never like it seems, feeling love like it's just something from a dream. I think of you. Love you.